Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit Public, une heure pour débattre de l'actualité politique et géopolitique de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le chercheur en sciences politiques Manuel Cervera-Marzal, les essayistes Mathieu Laine et Philippe Manière et le journaliste Gérard Courtois. Au sommaire de nos discussions, quelles nouvelles de la gauche française à mi-mandat d'Emmanuel Macron? Et puis tandis que le feuilleton du Brexit se poursuit, et à la fin, est-ce que c'est l'Europe qui gagne? C'est une semaine où l'on entend parler d'une jambe gauche d'Emmanuel Macron. Un peu plus de 70 élus, pour la plupart issus du PS, ont signé une tribune le 20 octobre dernier pour exprimer leur soutien à la majorité présidentielle, estimant, malgré, je cite, de regrettables maladresses, que le cap est bon et la France gouvernée. Parmi les signataires, Roland Ris, l'actuel maire de Strasbourg, et en coulisses, deux ministres ex-socialistes à la manœuvre, Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian, chargés, en vue des prochaines élections, de continuer à siphonner le PS sur le modèle de ce qui a été fait déjà avec succès pour les élus de centre-droit. Terrible question pour la gauche française. Plus de deux ans après l'élection du président disruptif, qui prédisait la disparition des vieux partis et avec eux des vieux clivages, la gauche est-elle vraiment au point mort? Pas si sûr, si l'on en croit ces fins connaisseurs de la carte électorale, nous expliquant comment la gauche résiste sur les territoires, pouvant potentiellement conserver les villes de Paris, Lille, Nantes, Rennes, Grenoble ou Clermont-Ferrand. Pas si sûr, si l'on en croit la vigueur de la poussée écologiste telle qu'elle s'est manifestée aux dernières européennes. De bonnes nouvelles de la gauche, mais aussi de moins bonnes, comme l'éternelle bataille des égos, des rancœurs et des ambitions, avec par exemple les règlements de compte cette semaine de Claire Nouvian, l'ex jeune espoir de la gauche aux côtés de Raphaël Glucksmann aux dernières élections, en rupture désormais avec le mouvement Place Publique, avec cette phrase terrible « Quand les dégoûtés partent, il ne reste plus que les dégoûtants ». Mauvaise nouvelle aussi pour la gauche, ces difficiles unions électorales sur le terrain. Certains Verts se rêvant désormais suffisamment forts pour se passer de partenaires, communistes et insoumis se tirant toujours autant dans les pattes. Beaucoup de questions d'appareil et toujours pas grand-chose sur le terrain programmatique. Un livre de Bernard Cazeneuve par-ci, un autre de François Hollande par-là, proposant par exemple de rallonger d'un an le mandat présidentiel. Un peu court pour parler d'un sursaut des hommes et des idées. Alors la gauche de retour, pas encore.
Je suis convaincu que si le Parti Socialiste a un candidat et que les écolos ont un candidat, eh bien de toute façon, on peut déjà acheter nos billets de spectateurs et non pas d'acteurs politiques. C'est la seule manière de faire, c'est que les électrices et les électeurs de gauche et écolos, eh bien, se fassent entendre qu'il y ait des centaines de milliers de signataires qui disent « Mais attendez, si vous êtes 50 aux prochaines élections, nous, on n'ira pas voter. »
Alors oui, faisons attention que le vide ne s'installe pas. J'appelle à ce que les grandes formations politiques se réinvestissent et reprennent ce que d'autres ont fait, recréer une force politique, une formation politique, faire du débat, faire de la contradiction, aller auprès des Français, c'est ça la politique.
Moi je crois qu'il faut une grande ambition et la reconstruction de la gauche, elle passe par les idées. Il faut, pour que la gauche humaniste renaisse et pour que nous soyons en situation de gouverner de nouveau, regarder chacune des questions qui se présentent à nous, la question européenne, la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la synthèse entre l'écologie, la justice sociale et les valeurs et les principes républicains, la mondialisation, et que sur ces questions, nous suscitions non pas la colère, mais l'espérance.
Voilà, et vous venez d'entendre Raphaël Glucksmann, François Hollande et Bernard Cazeneuve lors de leurs interventions médiatiques cette semaine. Manuel Cervera-Marzal, d'abord, puisque nous venons de les entendre, un mot sur l'incarnation ou la voix, les voix de cette gauche aujourd'hui. Est-ce que la gauche a d'abord un problème de leadership ?
Je ne sais pas si c'est un problème de leadership. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, la gauche française, aujourd'hui, elle est dans une situation quand même particulièrement difficile. Et si on veut comprendre la difficulté qu'elle traverse aujourd'hui, je pense qu'il faut faire vraiment remonter en amont, mais sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies, en réalité. Le processus, ce qu'on a sous les yeux, c'est le résultat d'une déconnexion croissante entre les élus, les partis de la gauche et l'électorat de gauche. Une déconnexion qui se voit sur deux plans. Bon, d'abord sur un plan sociologique, c'est banal de le dire, c'est attesté par d'extrêmement nombreuses études, mais on a des élus de gauche qui sont de vieux mâles blancs dominants qui par ailleurs gagnent 2, 3, 4 fois plus que le salaire moyen des Français. Et cette déconnexion sociologique, elle se double, et les deux processus sont extrêmement imbriqués, d'une déconnexion idéologique entre les partis de gauche et notamment celui qui ne l'incarne plus, mais qui l'a incarné pendant un demi-siècle, le Parti Socialiste, et le reste de l'électorat. C'est pour ça d'ailleurs que l'électorat de gauche aujourd'hui n'est pas passé à droite ou à l'extrême droite, contrairement à ce qu'on entend parfois, mais se réfugie dans l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un tournant idéologique du Parti Socialiste qui s'est, en gros, si je le résume un peu rapidement, résumé par deux idées. D'abord, c'est la conversion néolibérale, voilà, cette idée que... Il n'y a pas d'alternative à la mondialisation, à la concurrence, à la privatisation. Bon, ça, c'est entamé dès les années 80 sous Mitterrand. Et puis, il y a le tournant peut-être un peu plus récent, qui date des années 2000, 2010, avec, là, incarné, s'il fallait citer une figure, par Manuel Valls, qui est le tournant vraiment sécuritaire et même en partie. Enfin, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une forme de d'islamophobie complexée, qui n'ose pas s'assumer comme telle. Mais voilà, un tournant vraiment sécuritaire et islamophobe d'une grande partie de la gauche, pas de toute la gauche, qui font que du coup il y a eu une rupture avec tout simplement ces électeurs.
Gérard Courtois, vous qui êtes un journaliste politique chevronné, que vous inspire à la fois ces tentatives de retour au moins sur le terrain des idées de l'ancien monde, avec par exemple le livre, ou j'allais dire les livres de François Hollande, et puis ces jeunes ténors qui tentent d'exister et de reprendre le flambeau?
Alors... On a assez reproché aux socialistes, et on vient de le faire à nouveau, de ne plus avoir pensé, réfléchi et réinventé l'avenir depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, pour, à mon sens, ne pas saluer le travail et la réflexion menée d'un côté par François Hollande sur le terrain des institutions, de l'autre côté par Bernard Cazeneuve. Et là, je pense moins à son livre de récit de son passage au gouvernement que à l'article qu'il a publié dans le numéro du débat. De la revue Le Débat.
À la fois ce livre qui s'appelle « À l'épreuve de la violence » et voilà. Puis cet article dans
Mais votre... cet article, qui est un article programmatique, me paraît tout à fait intéressant. Donc, il y a là deux propositions. Il se trouve que c'est l'ancien président, l'ancien premier ministre, des hommes expérimentés, deux propositions complémentaires. Alors, celle de Hollande. Hollande est un champion de la synthèse. C'est formidable. Il réussit à inventer un dispositif institutionnel ou à réinventer un dispositif institutionnel. Il dit c'est pas la sixième république. Bon, c'est pas celle que propose Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une sixième république présidentielle à l'américaine, fondée sur une séparation des pouvoirs très claire entre un président patron de l'exécutif, unique patron de l'exécutif, plus de premier ministre, plus de droit de dissolution, un parlement débarrassé ou libéré de la férule de l'exécutif et l'obligation de ces deux pouvoirs de discuter, de se concilier et de trouver des compromis. Bon, très bien, ça pose... Et ça répond effectivement à des griefs très anciens, contre aussi anciens que la Constitution de la Ve République, contre le régime instauré par le général de Gaulle. Les griefs, on les connaît, surpuissance présidentielle, effacement du Parlement, insuffisance des contre-pouvoirs qui font que les tensions sociales se résolvent ou s'expriment dans la rue. On l'a vu de manière violente, on l'a vu l'an dernier, et on l'a vu maintes fois depuis 50 ans. Donc on connaît les griefs. La réponse de Hollande, elle est celle-là, avec en prime... parce que c'est assez chic, un allongement de la durée du mandat présidentiel, un raccourcissement de la durée du mandat législatif, très bien. Est-ce que ça répond au problème ? Je ne crois pas. Est-ce que ça répond au problème de la défiance et du malaise démocratique, ce qui est l'ambition de François Hollande ? À mon sens, non, parce que ce malaise, il résulte de quoi ? Des griefs que font les Français à leurs responsables politiques. Il le reproche de n'être pas assez efficace, de n'être pas assez juste, de n'être pas assez exemplaire. Je ne vois pas ce que, de manière évidente, l'ingénierie institutionnelle de Hollande changerait à ça. Inversement, je suis court, mais je crois que c'est important, la réflexion de Bernard Cazeneuve me paraît plus féconde, parce qu'elle va à l'essentiel. L'essentiel, pour lui, c'est... se servir du levier d'une transformation écologique en profondeur dont il décrit ça reste assez abstrait, hein, mais quand même, dont il décrit quelques-unes des modalités pour refonder le régime républicain. Ça pose juste un petit problème, et je le dis comme en passant. Bernard Cazeneuve, il me fait penser à Raymond Barre.
Je ne sais pas si cette comparaison lui ferait très plaisir.
Si, probablement, parce que c'est un homme sérieux, c'est un homme intelligent, solide, très, très attentif aux questions et à l'avenir de la République et de l'État. Mais, vous savez, en 88, quand Raymond Barre était candidat à l'élection présidentielle, ses conseillers lui disaient, Monsieur le Premier ministre, faites rêver les Français, un petit peu au moins, un petit peu. Et Raymond Barre disait, mais pour faire rêver, il faut d'abord endormir, et je respecte trop mes concitoyens pour m'y prêter. Et je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve soit très enclin à faire rêver ses concitoyens.
Philippe Magnin.
Non, tout ce qui a été dit, je le partage largement, avec peut-être une petite réserve sur ce que disait Emmanuel sur le côté homme blanc de plus de 50 ans. Est-ce que il faut ressembler à ses électeurs pour les représenter légitimement? Je pense que c'est une question qu'il faut creuser un peu. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là et j'ai beaucoup plaidé pour qu'il y ait plus de variété au Parlement. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que Macron a fait progresser la variété. Il faut quand même regarder la réalité historique. C'est-à-dire que De Gaulle ressemblait assez peu aux Français moyens. Et il a été très populaire. Et il avait un vote féminin très puissant. Obama, par définition, ressemblait peu à la moyenne américaine. Et il a été élu et il a été, en réalité, capable de représenter l'Amérique dans sa diversité, quand bien même elle est majoritairement blanche. Mitterrand puis François Hollande, c'est très spectaculaire, ont bénéficié de l'essentiel du vote de nos concitoyens d'origine étrangère, et en particulier d'origine musulmane, de pays principalement musulmans. Donc l'idée qu'il faille ressembler aux gens pour les représenter légitimement me paraît extrêmement discutable. Maintenant, sur ce qui vient d'être dit sur les institutions, je suis d'accord. Je pense quand même que François Hollande, et je veux dire, j'étais un peu surpris par la qualité de ce texte, mais le doigt tout de même sur quelque chose qui est important. Oui, il revisite les éternelles critiques contre la Ve République, mais ces critiques ont été retrempées et, à mon avis, rendues beaucoup plus crédibles que du temps où François Mitterrand, fût-ce avec une plume admirable, les exprimait originellement, par la problématique de l'alignement des échéances et le quinquennat. Il n'y a plus de légitimité autonome du Parlement dès lors que le Parlement est élu, passez mon expression, au cul de l'élection présidentielle, autrement dit que n'importe qui est élu à la présidence de la République a automatiquement un Parlement à sa botte. Donc il n'y a plus de rivalité entre les pouvoirs, ce qui pose un problème à mon avis au regard des grands principes de séparation des pouvoirs et de contrôle de l'exécutif, mais qui pose surtout, et là on rentre dans notre sujet, la question de la représentation des gens qui ne sont pas contents. Du temps où il y avait des législatives, on pouvait se dire, bon, et ça s'est vu, hein, alors ça a des inconvénients la cohabitation, bien sûr, mais on pouvait se dire, il y aura une élection législative, on pourra exprimer son mécontentement. Aujourd'hui, on sait qu'il faut attendre la fin du cycle présidentiel pour que la moindre expression de divergence avec ce qui se passe au pouvoir, sachant que le pouvoir n'est plus qu'un, en quelque sorte, puisse être exprimé. Donc je pense que cette question-là, moi je ne suis pas sûr qu'il faille réviser intégralement les institutions, il faut le faire en tout cas avec prudence, avec la main qui tremble, mais l'idée de décaler les échéances entre les élections me paraît fondamentale. Moi j'ai été pour le quinquennat parce que je trouvais que c'était bien de ne pas attendre 7 ans, mais je suis devenu foncièrement contre le quinquennat, non pas parce qu'il fait 5 ans, mais parce que c'est la même durée.
Cette reconstruction programmatique de la gauche, est-ce qu'il est bon, sain, normal qu'elle commence par cette réflexion sur les institutions?
Je ne sais pas, parce que du point de vue du marché politique, la réponse à votre question est certainement non, parce que s'il y a un truc qui n'intéresse pas les Français, ce sont les institutions. Cependant, à partir du moment où on fait l'analyse que les Français sont amers de ne plus être suffisamment représentés, en tout cas c'est ce qu'ils pensent à tort ou à raison, alors cette question de l'inexistence du Parlement, encore plus importante qu'au début de la Ve République, à raison de la des échéances, mérite d'être traité d'un point de vue politique. Au-delà, moi je ne vais peut-être pas développer tout ce que j'avais envie de dire maintenant sur les limites de la gauche en France, mais je crois qu'il y a un problème spécifique de la légitimité et de la programmatique de la gauche qui tient à l'histoire du pays depuis 50 ans, qui en gros est le seul pays d'Occident, qui n'a jamais eu, de retour de balancier. Dans tous les autres pays, y compris d'ailleurs parfois sous la gauche, avec Schröder en Allemagne, avec Persson en Suède, avec Douglas en Nouvelle-Zélande, vous avez eu à un moment des corrections apportées par un pouvoir régulièrement élu, parfois de droite, Reagan, Thatcher, on le sait, mais souvent de gauche, ce qu'on sait moins en France, à cette espèce de dérive, je ne vais pas donner le sentiment que je regrette tout ce qui a été fait à ce titre, mais cette espèce de d'unicité du mouvement de Valencier vers toujours plus de social. Et on est aujourd'hui au point où cela se paye du point de vue économique et même du point de vue, à mon avis, identitaire du pays. Et donc, il faudrait, en quelque sorte, proposer des réformes qui ne sont pas, du point de vue historique et du point de vue théorique, de gauche. Les réformes qu'ont faites les Schröder, les Douglas, les Persson, etc. Donc, comme la gauche française ne pense qu'à une chose, et on peut le comprendre, puisque c'est son fonds de commerce éternel, et en quelque sorte, c'est son déterminisme naturel, c'est-à-dire de proposer plus de social, et que plus de social aujourd'hui, ça n'est même plus imaginable, et que les gens le pressentent, finalement, la gauche se retrouve dépourvue d'un élément fondamental de son front de commerce qu'on appelait en quelque sorte le progressisme social. Non pas que les gens n'aient pas envie de plus de social, mais ils ont bien compris que ce qu'ils pouvaient obtenir de mieux si on voulait être raisonnable, c'est défendre ce qui a été fait jusqu'à maintenant, certainement pas faire de nouvelles conquêtes sociales, parce que ça n'est pas économiquement possible et ça n'est pas raisonnable si on veut que le pays
alors,
survive. Alors,
avant de donner la parole à Manuel Servière-Marzal qui brûle de vous répondre, d'abord un mot avec Mathieu Laine qu'on n'a pas encore entendu, qui représente un peu aussi dans ce studio une sorte quoi de macronisme originel. C'est vrai qu'on veut dire que le macronisme est un glissement lent mais sûr vers ce qu'on pourrait appeler une politique de centre-droit, au moins sur un plan économique ou peut-être aussi sur un plan régalien, je ne sais pas, ce qui devrait en toute logique dégager un espace à gauche. Et puis je voudrais avoir aussi votre sentiment sur cette constitution d'une jambe gauche du président, comme ça a été beaucoup dit cette semaine avec ces termes-là.
Alors je me porte en faux directement, c'est-à-dire que je ne représente pas le macronisme, même si j'ai beaucoup d'affection pour le Macron, pour le président de la République, mais pour ce qu'il fait. Mais si on prend tout de suite un peu plus de hauteur par rapport à ces éléments personnels, il me semble que l'analyse qui doit être portée aujourd'hui, Elle ne peut pas omettre la dimension post-traumatique de l'élection d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, parce que les hommes de gauche que l'on entend aujourd'hui, de la nouvelle génération comme de la précédente ayant en grande partie échoué, si on regarde leur bilan, ce sont des gens qui raisonnent toujours comme des rentiers de l'ancien système. Pour prolonger un peu la métaphore de Philippe, si on raisonne en termes de marché politique, le marché politique français jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron se répartissait sans cesse entre la droite et la gauche et on attendait gentiment son tour. Et donc, quand on était dans l'opposition, on faisait ce qu'on a entendu là, c'est-à-dire on se dit, tiens, on liste un peu les grands sujets, est-ce qu'on va commencer par les institutions, est-ce qu'on va commencer par la politique fiscale ou par d'autres thèmes. Et puis on finissait par se dire, allez, on va proposer un certain nombre de choses en cohérence avec le passé, un tout petit peu en changement par rapport au passé, mais surtout que les autres se plantent, surtout que les autres créent de la déception et nous récupérerons le bébé. Le macronisme, à mon sens, est né à un moment où le ministre Emmanuel Macron était ministre donc dans un gouvernement de gauche avec des parlementaires qui étaient ce qu'on appelait les frondeurs à l'époque et donc une gauche plus rouge disons d'un rose un peu plus foncé que le sien, c'est dire clairement. Et il a essayé, quand il a rédigé sa loi Macron, d'ouvrir après 2 ans d'une gauche vraiment de gauche, et alors que Manuel Valls était censé incarner une certaine ouverture, il a essayé d'ouvrir un certain nombre de marchés à la concurrence ou ce genre de choses. Et il s'est rendu compte que il n'aurait jamais la majorité pour faire passer ce qu'il avait envie de faire. Et donc on avait une idée à l'époque, c'était d'aller appeler des parlementaires de droite, d'innover en quelque sorte. Et quand vous raisonnez en termes de marché, quand vous voulez prendre des parts de marché, il faut innover. C'est très schumpeterien finalement. Et donc on est allé appeler j'étais un peu envoyé pour ça, c'était mon initiative. Il n'y a pas un seul parlementaire de droite que nous avons contacté qui était donc susceptible de considérer qu'il restait 3 ans et que c'était peut-être pas si mal de soutenir des idées qui auraient pu aller un peu plus vers plus de liberté et qui feraient donc du bien au pays, parce que chacun attendait au contraire la défaite de la gauche. Et bien tout cela, par les faveurs d'une histoire et d'une audace finalement, et des circonstances de l'histoire, fait que quelqu'un est arrivé, un peu comme un martien, et a dit en fait votre truc droite-gauche, on va faire autrement. Et je crois qu'en réalité, au-delà de son aventure personnelle, ça correspond à l'époque. C'est-à-dire que comme on est dans un monde aujourd'hui, car ça ne frappe pas que la France, où un certain nombre de déceptions se sont construites sur les politiques traditionnelles des rentiers qui se passaient le pouvoir les uns après les autres, sans en général faire les réformes qu'il fallait faire, et bien tout à coup, et alors même que le populisme monte, il y a maintenant une fracture qui se fait entre celui qui peut rassembler, disons, les plus raisonnables, avec évidemment le plus d'audace possible, et puis ceux qui incarnent une forme d'extrémisme. Et c'est pour ça que Macron ramasse, et c'est cette capacité à avoir créé une nouvelle offre qui fait qu'aujourd'hui, il tient effectivement la corde.
Alors cette nouvelle offre, comme dit Mathieu Laine, Manuel Cervera-Marzal, et puis ces deux jambes qui existeraient chez le président, cette jambe gauche et cette jambe droite.
Oui, sur cette jambe gauche, j'ai l'impression là sur les 70 élus qui visiblement rejoignent la majorité présidentielle que moi j'en connaissais aucun, donc je sais pas, c'est même pas des premiers ni des seconds couteaux du Parti socialiste, peut-être des troisièmes couteaux qui
Roland Ris, le maire de Strasbourg, n'est pas un personnage complètement secondaire du paysage politique français.
C'est peut-être le seul qui se démarque et là-dedans il y en a beaucoup qui espéraient peut-être une investiture socialiste au municipal, qui l'ont pas eu, qui se retournent vers le Parti socialiste, vers La République en Marche. Ça nous indique qu'il y a encore 70 personnes dans ce pays qui pensent qu'on peut être macroniste et de gauche. Voilà, je pense que c'est...
Je crois que vous vous trompez, malheureusement.
Ce qui vous laisse songeur, aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là.
Je vais jusqu'au bout de ce raisonnement. En tout cas, ce qui me semble important, parce qu'il y a des questions vraiment de fond qui ont été soulevées, alors notamment sur la représentation, ce que disait Philippe Manière tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que les représentants soient à l'image des représentés? Je dirais que c'est pas une... Alors pour moi, oui, évidemment, c'est pas une garantie absolue d'une bonne politique, mais simplement, ça évite justement de se retrouver dans des situations comme celle qu'on a vécue il y a deux semaines. Où je vais vous donner un exemple, on a eu un grand débat qui a rythmé toute la semaine sur le voile. Il y a eu 85 talk shows à la télévision, organisés sur cette question du voile. Il y a eu 275 invités lors de ces 85 débats. Sur ces 275 invités à débattre sur le voile, aucune n'était une femme voilée. Est-ce que vous pensez que ce fait-là n'a aucun lien avec le fait que les discours qu'on a entendus étaient des condamnations unilatérales, du voile dans l'espace public? Il y a un lien entre les deux, tout comme la disparition...
Pas de la variété des plateaux de télé, je parlais de la...
À l'Assemblée nationale, c'est la même chose, parce qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, vous avez 25% d'ouvriers en France. Alors ça, les gens ne le savent pas trop, parce qu'il y a eu tout un discours aussi qui nous a été servi sur la disparition de la classe ouvrière, mais vous avez 25% d'ouvriers en France. À l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun ouvrier, aucune ouvrière. Et ça aussi, ça a un lien avec les politiques qui sont menées en faveur d'une minorité de privilégiés, parce que quand vous n'avez pas les gens qui sont présents eux-mêmes pour défendre leurs intérêts, tout simplement... ils se font, en quelque sorte, oublier, marcher dessus. Il y a un dernier point qui m'intéressait beaucoup dans la discussion, c'est les questions sur les institutions que soulevait Gérard Courtois, parce que je pense effectivement que c'est des questions, je sais pas, c'est peut-être pas dans notre culture politique, en tout cas on les prend trop peu souvent à bras-le-corps, et je suis content qu'il y ait aujourd'hui un, deux ouvrages qui abordent cette question, qu'on la met sur la table, mais tant qu'à mettre la question des institutions sur la table, j'ai envie de dire, posons-la entièrement, parce que j'ai le sentiment que ce qui se discute ici entre quel pouvoir on accorde au Parlement ou au Président, quel équilibre, c'est du détail, on est dans le fignolement. Il faut revenir à la question fondamentale qui est que notre régime institutionnel qui a été fondé il y a 250 ans en France lors de la Révolution française, c'était un régime qui à l'époque avait été défini comme non démocratique. Les révolutionnaires français avaient décidé de créer une république qui n'était pas une démocratie. C'est dans tous les textes de l'époque, ils disaient, il faut surtout pas que le peuple gouverne parce que le grand nombre est incompétent, le grand nombre est ignorant, le grand nombre est hargneux vis-à-vis des élites. Et donc on a mis en place un régime qui repose sur deux piliers, les élections. Les élections, ça vise justement à déposséder le peuple de son pouvoir pour le confier à une minorité d'élus.
Et
un siècle plus tard, un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle, on a amendé ce régime qui était une aristocratie. On l'a amendé en introduisant la professionnalisation de la politique, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des élus qui sont très largement déconnectés de la société. Donc, on est dans des institutions qui sont aristocratiques, qui sont oligarchiques. Et si on veut une vraie réforme institutionnelle, il faut revisiter des choses comme la rotation des tâches, la révocabilité permanente des élus, un salaire égal au salaire moyen de la population. Voilà.
Alors rapidement, Gérard Courtois, à la fois sur le terrain institutionnel qui vous occupe beaucoup ce matin, et puis aussi sur ce sentiment étrange. Pourquoi est-ce que sur le champ conceptuel des inégalités, sur la conception du service public, du statut, de la rémunération des fonctionnaires, c'est-à-dire des espaces dont on sent que le macronisme aurait pu les dégager pour la gauche, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas investis ou en tout cas ne prennent pas la forme de propositions réellement audibles ?
Non, mais tout simplement parce que le PS, évidemment depuis 2017, mais aussi la France insoumise depuis sa dégringolade aux européennes sont en état de tétanie, on va dire. J'allais dire de survie pour le PS et de tétanie pour la France insoumise. Bon, voilà, c'est pas la meilleure situation pour réfléchir de manière intelligente à des propositions de fond.
Même deux ans et demi après.
C'est pourquoi. Oui, j'y viens dans un instant. Mmh. C'est pourquoi le papier de Cazeneuve me paraît intéressant, parce qu'il va au cœur de questions essentielles. Quelle croissance, de quelle manière, avec quel type de justice sociale et avec quel type d'accompagnement démocratique? Ça, c'est les vraies questions. Bon. Mais bon, voilà, même deux ans et demi après, dites-vous, simplement, la gauche est en situation de survie. Elle s'efforce de lutter désespérément actuellement, et c'est encore le cas, on l'a vu aux européennes, à desserrer l'étau Macron-Le Pen. Et dans l'immédiat, et c'est pour ça que est intéressante l'initiative des 71 signataires, j'ai bien entendu ce qu'il
est
dit.
Même si c'est l'ironie de Manuel, ça verra dans ceci.
Je comprends l'ironie, mais ça démontre quoi? Que pour la gauche, et notamment pour le Parti Socialiste, Parti communiste très accessoirement, enfin pas sur le plan des municipales, l'objectif immédiat, c'est de protéger ce qui reste des fiefs municipaux, on verra après les départements et les régions, mais pour les municipales, je vous donne juste deux chiffres, très vite. En 2008, la gauche, essentiellement le PS et le PC, dirigent, après les élections municipales, 140 villes de plus de 30 000 habitants sur 236. En 2014, donc la dernière élection, c'est la situation actuelle, la gauche dirige 84 villes de plus de 30 000 habitants. Le PS en a perdu la moitié, ils en avaient 100, ils en ont plus que 50. Donc il y a quelque chose d'absolument vital dans la préservation de ces derniers fiefs municipaux. C'est le socle éventuel de résistance, de reconstruction d'un appareil militant, de nouveaux dirigeants. C'est une école de formation des cadres, la gestion d'une grande ville. Donc, pour eux, c'est vital. Et ils voient bien, et c'est le sens de l'initiative de Le Drian et du SOPT, avec les 71 signataires, ils voient bien que, comme dit Édouard Philippe, la poutre continue à bouger et que la capacité d'attraction du macronisme reste forte, y compris pour les municipales.
Mathieu Lenne.
Il faut effectivement considérer que quand on veut apparaître comme un nouvel entrant dans ce marché, la logique voudrait dire qu'on va identifier un certain nombre de nouvelles idées, on va les proposer, et puis on va essayer de trouver l'offre créant la demande des électeurs qui peuvent les suivre. Mais à leur décharge, pour ne pas charger tous ces gens qui n'y arrivent pas. Le contexte est vraiment compliqué. Le contexte est compliqué, et c'est un peu parce que nous sommes dans un monde... Quand on relie Marcel Aimé et le passe-muraille, c'est la stratégie du passe-muraille qui a gagné. C'est cette capacité aujourd'hui, si vous voulez gagner une élection, à passer, à aller chercher à droite, au centre et à gauche, d'une part, pour gagner l'élection. Ou la stratégie miroir, qui est la stratégie Buisson, qui est de rassembler l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce sont les deux seules stratégies qui, pragmatiquement parlant, marchent aujourd'hui. Sur le plan électoral, du fait de la manière dont les institutions sont construites, c'est vrai, mais aussi parce que ça correspond à cette époque où le monde libre est très affecté par la montée en puissance de ces contestataires extrémistes, en tout cas qui vont assez loin dans leurs propositions. Et donc c'est difficile aujourd'hui pour un nouvel entrant, et on voit bien d'ailleurs qu'ils ont même du mal à émerger, si j'allais dire sur le plan médiatique, pour simplement être connus, d'apporter cela. Cela dit... Il y aurait pourtant tant à faire, comme vous le disiez. Esther Duflo a eu un prix Nobel d'économie. C'est pas une grande libérale de droite, Esther Duflo. En revanche, elle n'est pas tombée dans la caricature de considérer qu'il fallait multiplier par trois l'aide sur le plan international. Elle a développé cette expérimentation pragmatique sur le terrain. Il y aurait des choses à aller chercher dans le monde académique. Philippe Manière connaît ça par cœur. Et donc, il y a sans doute aussi une espèce de à la fois de fainéantise à ne pas aller chercher les nouvelles idées, je trouve. Des dirigeants politiques, et en même temps sans doute une fatigue, parce que à quoi bon faire tous ces efforts quand on voit ce qui s'est passé aux élections européennes? On était en plein gilet jaune, enfin post-gilet jaune en quelque sorte, le président de la République, son parti aurait pu être extrêmement affecté, on était un vote au milieu d'un mandat, et finalement qui sort en tête, le FN, enfin le RN, et puis le sien. Donc c'est sans doute un peu décourageant pour la nouvelle offre.
Alors néanmoins, sur le plan conceptuel, Philippe Manière, on peut tracer un trait d'union, par exemple, entre un Bernard Cazeneuve et un Raphaël Glucksmann, qui se rejoignent au moins sur l'idée que la social-démocratie ne pourra se régénérer que parce qu'elle placera la transition énergétique au cœur de son nouveau logiciel. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, finalement, la seule pensée de gauche qui réellement émerge et qui fait consensus?
Si vous permettez un mot, Émilie, je pense que Bernard Cazeneuve préfère être comparé à Raymond Barre.
Je savais que je vous ferais réagir.
Oui, non, mais enfin, en même temps, les associés précisément montrent à quel point d'ici à là, on n'a plus que ça à imaginer. Comment dire cette histoire d'écologie politique est absolument bouffonne à mes yeux, parce que je crois que la prise de conscience est très large, que aujourd'hui, de droite, de gauche, du centre, d'où vous voulez, les Français ont bien compris qu'il y avait un sujet qu'il fallait traiter. Il se trouve d'ailleurs que ce gouvernement, pas plus que les précédents, sans doute pas moins que les suivants, ni plus ni moins, s'en occupe autant qu'il est à peu près possible de le faire. Il se trouve qu'en plus, la France est incroyablement vertueuse sur à peu près tous les critères qu'on peut imaginer s'agissant de ce sujet. Et donc, l'idée qu'on puisse en faire quelque chose de différenciant dans un parti est objectivement folle. Cela dit, la gauche n'ayant plus grand-chose à dire pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment, je vois bien en quoi c'est pour elle tentant de venir sur ce terrain-là en prétendant être la seule qui défend l'écologie, l'avenir de l'homme, le sauvetage de l'humanité et toutes sortes d'autres grandes et belles idées émergées à marée basse. Ça n'est pas très sérieux à mes yeux, mais c'est certainement assez intelligent du point de vue, encore une fois, du marché politique, puisque le mot a été lâché. Alors cela dit, mais je voudrais quand même revenir un instant sur ce qui a été dit sur Emmanuel Macron, qui serait ni de gauche ni de droite, aurait fait une percée conceptuelle majeure. Tout ça me paraît personnellement assez risible. Je ne crois pas du tout ni à Nouvelle Offre, ni au Nouveau Monde, ni d'ailleurs, pour être très honnête, beaucoup aux nouvelles idées. Enfin, l'idée qu'il suffit de... Pardon, c'est l'idée sur l'idée, mais l'idée qu'il suffirait de réfléchir longtemps, de bonne foi, pour trouver de nouvelles idées est une idée folle, précisément. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été pensées. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire sur la possibilité de venir avec une offre nouvelle fondée sur des idées nouvelles. Beaucoup d'idées opportunes aujourd'hui sont en réalité des idées très anciennes, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Je finis là-dessus. Et je voudrais finir pour dire un mot sur Macron, dont tout le monde a l'air de dire ici qu'il est évident qu'il est plutôt de droite. À mes yeux, il est absolument évident qu'il est plutôt de gauche. L'histoire l'histoire de l'ISF et du prélèvement forfaitaire universel, qui a beaucoup fait parler et qui était, à mon avis, une bonne réforme prise à juste titre, mais qui était évidemment difficile à classer à gauche, est l'arbre qui cache la forêt. La quasi-totalité des autres mesures prises par Emmanuel Macron sont, à mes yeux, manifestement de gauche. Elles sont redistributrices, elles sont taxatrices, diminuent pas la dépense publique, etc. Dans le monde entier, il vient quand même, faut pas oublier, du cabinet de François Hollande, et pratiquement tout son entourage vient de chez DSK. Donc moi je veux bien qu'on me dise que c'est la droite.
Personne n'a dit qu'il était de droite.
Bon, bah, alors, c'est peut-être la gauche. Peut-être davantage Manuel Cervera-Marzal, et en guise de conclusion, peut-être d'abord savoir si pour vous Emmanuel Macron, aujourd'hui, 2 ans et demi après son élection, est plutôt un président de droite ou de gauche ou de centre-droit ou de centre-gauche, et puis savoir ce qui à vos yeux est une idée neuve, pour reprendre l'expression de Philippe Manière. Qu'est-ce qu'une idée neuve de gauche?
Non mais bon, enfin, Emmanuel Macron, tout le monde sait ce que j'en pense. Je pense qu'il a démontré pendant sa première année et demie de mandat qu'il fonctionnait pour les plus riches, et pendant la deuxième année, vu que ça crée forcément de la contestation, il a démontré qu'il savait garantir l'ordre social grâce au LBD, au matraque et au lacrymo. Donc voilà, ça, la conclusion s'impose d'elle-même à mes yeux, en tout cas.
Caricatural, c'est ça qui est bien.
Et non, sur la question qu'est-ce qu'une idée neuve aujourd'hui, bon, je pense que l'écologie quand même est une idée neuve, pas si neuve que ça. On peut évidemment faire une généalogie, mais c'est une idée en tout cas qui monte. Mais par contre, je suis pas d'accord avec vous, Philippe Manière, quand vous dites que finalement, tout le monde est écologiste aujourd'hui. Oui, en un sens, tout le monde est écologiste, mais c'est pas du tout les mêmes écologies. Le Rassemblement National a fait sa campagne des européennes sur une thématique écologique pour exalter l'identité locale contre, évidemment, les menaces obsidionales étrangères. Emmanuel Macron, c'est une écologie business, du greenwashing, il déforeste l'Amazonie, il accorde des autorisations sur les pesticides, il subventionne les industries.
Avec ses petits bras musclés, Emmanuel Macron déforeste l'Amazonie.
360 000 hectares pour la déforestation qu'il a autorisée depuis qu'il est arrivé. Ah bon, donc voilà, c'est une écologie de façade. Par contre, il y a une vraie écologie aujourd'hui qui allie la critique de la destruction du vivant à la critique de la destruction des collectifs humains, et voilà, ça c'est, je pense que c'est une écologie populaire plus conséquente.
Allez, Mathieu Laine, vous avez très envie de parler, ça tombe bien, je vais vous emmener maintenant dans la ville dont vous arrivez ce matin. Je vous ramène à Londres, mais je vous emmènerai également à Bruxelles. On vient d'évoquer la mission périlleuse de la gauche qui doit se reconstruire à l'occasion des prochaines municipales. Il y a une mission peut-être encore plus compliquée, être Michel Barnier et réussir à sortir du Brexit.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Qui a vraiment envie d'avoir la vie de Michel Barnier? Il faut croire pourtant que le négociateur en chef du Brexit aime son job, puisqu'il vient d'être nommé dans la nouvelle Commission européenne de la nouvelle présidente, Madame Ursula von der Leyen, à la tête du groupe de travail nouvellement créé sur les relations avec le Royaume-Uni. C'est donc lui, de nouveau, qui continuera de coordonner les travaux pour les mois à venir, lequel Michel Barnier estimait cette semaine dans la presse, je le cite, qu'il faudrait peut-être 2, 3 ou 4 ans pour reconstruire tout ce qui a été détricoté par la volonté de ceux qui ont soutenu le Brexit. Alors, de ce cauchemardesque divorce toujours en cours, 3 ans après le référendum, qui s'en tire le mieux? Le modèle européen ou le modèle britannique? On se souvient très bien de ces analyses de l'été 2016, de tous ceux qui expliquaient que le Brexit n'était pas arrivé par hasard, que le modèle européen était devenu répulsif par ses dogmes économiques, ses normes tatillonnes, son déficit démocratique, qu'au fond, l'Europe avait tout fait pour être détestée. Les eurosceptiques et europhobes de tous bords se prenaient à envier cette Angleterre qui reprenait son destin en main et promettait une île singapourienne ouverte aux échanges multiples avec l'Amérique et le Commonwealth, sans taxes et sans réglementations inutiles. 3 ans après, la Grande-Bretagne fait-elle encore envie à quiconque? Entre impuissance politique, société fracturée et signaux économiques ambivalents. Car si l'emploi se maintient, et la croissance aussi, bon an mal an, la livre sterling a perdu quelque 20% depuis le vote du Brexit il y a 3 ans. L'une des conséquences les plus visibles d'une livre faible a été de mécaniquement faire grimper le coût des importations qui ont contribué à faire monter l'inflation à plus de 2% en juillet. Les plus petites entreprises sont celles qui souffrent le plus de la chute de la livre, tandis que pour les Britanniques, elles renchérissent surtout l'addition de leurs vacances à l'étranger. En parallèle, aucun des États membres ne parle plus de quitter l'Europe, pas même les représentants des partis nationalistes à quelques rares exceptions près. Une nouvelle équipe dirigeante se met en place. Le 1er novembre prochain, Christine Lagarde succédera à Mario Draghi à la tête de la Banque centrale, Ursula von der Leyen à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Une nouvelle ère, mais pourquoi faire ? Brexit, à la fin, est-ce que c'est toujours l'Europe qui gagne ?
Ce que l'Europe peut apporter, c'est la solution. Elle peut créer des emplois, des perspectives d'avenir, la stabilité et la sécurité. Ce qui compte dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir une Europe forte et unie, qui assume son rôle dans le monde.
Voilà la voix d'Ursula von der Leyen. Mathieu Laine, puisque vous vivez en Grande-Bretagne, est-ce que la Grande-Bretagne vous fait toujours rêver ?
Ah bah j'y reste, donc, mais pour plein de raisons personnelles. Mais en tout cas, la regarder d'ici avec commisération, en considérant que vraiment ce pays est en train de s'effondrer, y compris sur le plan économique, ce serait vraiment avoir. Je peux vous donner des bonnes nouvelles du Royaume-Uni.
Alors allez-y.
Et ils ne vont pas si mal alors qu'ils vivent un traumatisme. Donc l'idée n'est pas du tout de nier l'impact d'insécurité fondamentale. Et même d'insécurité psychiatrique qu'a pu créer le Brexit et le fait que une bonne partie de ces élites, comme l'intégralité du pays, passe beaucoup trop de temps sur ce sujet, beaucoup trop d'intelligence mise sur un sujet qui s'éternise sans cesse. C'est le désert des Tartares, le Brexit. On n'en finit jamais. Cela dit, et ça a aussi été évidemment une très mauvaise décision, peu rationnelle, porté par un Dominic Cummings qui est une espèce de mauvais génie de la stratégie politique locale, qui n'a pas hésité à vendre des mensonges, comme le fait que les Anglais allaient récupérer 350 millions de livres toutes les semaines pour NHS, enfin pour le système de santé. Donc ça a été quand même d'ailleurs le vrai grand traumatisme déclencheur d'une bascule à travers l'Occident. Cela dit, aujourd'hui, ce pays a besoin de le faire, ce Brexit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vivez à Londres, dans un monde sans doute très privilégié, hein, mais j'ai été invité plusieurs fois à des Brexit parties. Donc ces moments où ça y est, c'était fini. Donc
les familles d'expatriés disent au revoir à leurs amis londoniens pour retourner en France.
Et également, et c'est là où on voyait beaucoup de Britanniques aussi, parce que l'idée c'est de pouvoir voir des Britanniques, bien sûr. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir combien des Remainers, comme on dit, des Anglais qui avaient voté pour rester en Europe. Moi, j'ai toujours pensé au départ qu'il fallait aller vers un second référendum, qui est un vrai biais d'un garçon complètement élitiste et déconnecté, parce que je me suis rendu compte à force que même une certaine élite qui avait refusé de voter, qui voulait rester en Europe, avait fini par me dire « Mais moi, s'il y a un second référendum, je voterai pour le Brexit parce qu'ils le veulent. » Et donc, si jamais vous leur enlevez, ce serait une campagne terrible pour un troisième référendum. Et donc, vous prolongez l'incertitude. Il y a un moment, il vaut mieux leur donner. Et pour le coup, si je reviens à une analyse vue d'ici, Macron, et pour le coup, j'étais pas du tout de son avis, Macron avait raison au départ. Macron, dès le début, a dit il faut qu'il sorte, et il faut qu'il sorte vite. À l'époque, il voulait même qu'il sorte avant les élections européennes. Merkel
ses
a
vœux n'ont pas été exaucés.
Toute attitude. Manifestement, Philippe Manière n'aime pas Emmanuel Macron.
Non, alors que je suis sur le sujet de la... Il voulait aller vite, il avait peut-être raison, mais ça n'a pas marché.
C'était pas un vœu, vous voyez, pour mon point, c'est vraiment la réflexion sur est-ce qu'il fallait prendre le temps en réalité de tout faire pour qu'il reste, et se redonner la possibilité d'avoir un second référendum et en réalité de les garder avec nous, ou est-ce qu'au contraire on respectait la volonté démocratique dans un pays qui a quand même à cœur de la respecter peut-être plus que d'autres, mais donnons-leur, faisons le meilleur des deals, comme on dit, et reconstruisons la relation au plus vite. Et en l'occurrence, le personnage assez étrange, parce qu'il y en a plusieurs, de Boris Johnson, dont... Je dois confesser que dans le Dictionnaire amoureux de la liberté, qui est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, j'avais fait une entrée Boris, parce que le voyant maire de Londres, je le trouvais ça formidable. On avait Montebourg ici, et ce côté tapis rouge à la liberté et à la création me convenait pas mal. Et puis tout à coup, comme quoi il faut jamais écrire sur les hommes politiques, en tout cas pas de lettres amoureuses, il s'est avéré en soutien d'une séparation qui ne me convenait plus du tout. Cela dit, l'avoir comme Premier ministre... finalement être assez pragmatique, jouait de cette capacité à faire peur, d'un côté le no deal, l'absence de deal, cataclysme pour tout le monde, et de l'autre côté aller jusqu'à une négociation précise pour qu'on puisse au plus vite sortir, était assez maline finalement.
Gérard Courtois.
Alors, je suis d'accord sur le fait, et ça me paraît le bon sens, que le plus tôt sera le mieux maintenant. Tellement ce feuilleton devient ahurissant, absurde, et tellement ce feuilleton prend en otage l'Europe. Elle prend en otage parce qu'elle mobilise toutes les énergies, ou beaucoup d'énergie, au moment où il y a... Et je prendrai juste deux exemples. L'un, anecdotique. Tant que la Grande-Bretagne est dans l'Europe, il y a 73 de mémoire parlementaire britannique qui siègent au Parlement. C'est quand même 10% des eurodéputés. Le jour où il partirait, et il y a un certain nombre de pays qui sont en attente, une partie, 27 de mémoire de ces sièges, il y en a une partie qui serait réservée pour d'éventuels élargissements, et 27 qui seraient redistribués, dont 5 aux Français. Donc, on a quelques Français comme ça qui attendent. Bon, c'est anecdotique. Beaucoup plus sérieusement, la présence ou l'absence des Britanniques modifie radicalement l'équation du prochain budget pluriannuel de l'Europe. 2022-2027, qui doit être négocié, discuté, et on sait que c'est toujours compliqué à partir de l'an prochain, à partir de la mise en place de la nouvelle commission. Or, le postulat qui a été posé, c'est que ce budget ne changerait pas, que la Grande-Bretagne y soit ou qu'elle n'y soit pas. Si elle y est, on répartit les choses à peu près comme ça s'est fait précédemment, avec des modifications de curseurs sur telle ou telle politique. Si elle n'y est pas, ça veut dire une augmentation de la contribution de chacun des États membres. Et à ce moment-là, la bagarre sur les priorités, est-ce qu'on continue à financer de manière massive une politique traditionnelle comme la PAC? Est-ce qu'on met le paquet au contraire sur les politiques environnementales, les politiques du numérique, etc., va être extrêmement tendu, difficile et complexe. Donc la présence ou l'absence de la Grande-Bretagne modifie, par exemple, un dossier essentiel comme celui-là. Je voudrais juste rajouter un point concernant votre première question, Émilie, sur est-ce que l'Europe gagne à la fin. Non, l'Europe perd, de toute façon. De toute façon, on peut reprocher tout ce qu'on veut aux Britanniques. Ils font partie, depuis un demi-siècle, c'est une pièce essentielle du puzzle communautaire européen. C'est une pièce économique, une des trois principales économies européennes, équivalente à celle de la France. C'est une pièce stratégique et militaire. Il n'y a pas de politique de défense européenne ou de stratégie de défense européenne sans les Britanniques. Et c'est une pièce philosophique. trois des composantes essentielles de l'Europe des années 1980 à aujourd'hui ont été très largement inspirées par les Britanniques. Le marché commun, la libre circulation, l'élargissement. C'est quand même pas rien. Donc, c'est un élément central.
Est-ce que pour vous aussi, Manuel Cervera-Marzal, de toute façon, après le Brexit, le modèle européen ou sa force d'attractivité en sort perdante? Alors même qu'on a pu dire aussi un peu, beaucoup ces derniers mois, que les Européens s'étaient retrouvés finalement au fond soudés derrière l'idée de rester groupés face à cette actualité du Brexit. Et puis quel est votre regard sur cette nouvelle équipe dirigeante de l'Europe qui se met en place et ces dossiers qui sont devant elle?
Oui, ça donne effectivement le sentiment d'une Europe, d'une entité qui se délite, voilà, qui d'un côté voit l'un de ses piliers, l'Angleterre, la Grande-Bretagne n'était pas à la fondation de l'Europe. D'ailleurs, quand ils y sont rentrés, ils étaient finalement, ça suscitait plutôt le désintérêt, c'était presque une non-question politique quand ils ont rejoint l'Union européenne. Et je remarque d'ailleurs aussi que la question du coup d'en sortir, qui est née il y a 4-5 ans, au départ, c'est pas vraiment une préoccupation des citoyens britanniques eux-mêmes, c'est plutôt une querelle interne à la droite britannique, interne aussi au milieu du patronat, voilà, qui se divise sur cette question de savoir, en gros, il y a une fraction du patronat qui pense que les affaires seront plus profitables si on reste dans le marché commun parce que ça donne accès à des parts, et une autre qui pense qu'il faut pouvoir en sortir pour développer notre propre régulation. Mais voilà, au début, c'est ça leur préoccupation. Et ce que je note, c'est que finalement, citoyens britanniques, là-dedans, ils se sont retrouvés pris en otage, en quelque sorte, de ce débat, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui tiraillés entre des gens qui ont été au pouvoir depuis une trentaine d'années et qui ont mené des politiques qui étaient globalement les mêmes, qui ont conduit comme résultat à ce qu'on voit dans les films de Ken Loach. Ken Loach vient de sortir un nouveau film qui décrit très bien l'ubérisation de la société. Il y a quelques années, on a tous vu, en tout cas si vous l'avez vu, vous vous en souvenez, parce qu'il est quand même poignant, ce film « Moi, Daniel Blake », où on voit comment la bureaucratisation de l'accès aux aides sociales a plongé des gens dans la détresse la plus profonde. Et ça, je veux dire, c'est autant les politiques de Thatcher et de Cameron que celles de Tony Blair. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, alors je suis content d'apprendre grâce à Mathieu Laine que tout n'est pas sombre là-bas, mais il y a quand même 1000 SDF de plus par mois depuis 3 ans. Il y a 20% des Britanniques qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont, tenez-vous bien, 40% des enfants britanniques qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, et ça, c'est des questions dont aujourd'hui on ne parle plus, on ne parle très peu en Grande-Bretagne parce qu'on est focalisé sur le Brexit, qui me semble être une forme de diversion. Et de même au niveau européen, du coup, les yeux de toute la nouvelle commission, voilà, sont braqués sur Michel Barnier. Enfin, j'en vis pas sa position aujourd'hui, elle est compliquée, mais sont braqués sur ce dossier-là. Et on en oublie, par exemple, le sort de la Catalogne, sur lequel la commission européenne ferme les yeux. Je précise un point, en Catalogne, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'indépendance. Moi, j'ai aucune position sur ce sujet-là. La question, c'est une question de respect de l'état de droit, parce que vous avez des dirigeants politiques qui ont été élus de manière d'ailleurs assez confortable, qui se retrouvent aujourd'hui emprisonnés pour plus de 10 ans. Le Conseil de l'Europe lui-même critique la politisation de la justice espagnole. Il faut savoir que les juges du tribunal suprême qui viennent de condamner les dirigeants catalans à 9 à 13 ans de prison sont des juges nommés par le pouvoir politique, qui se revendiquent fièrement sur les réseaux sociaux de leur appartenance à la droite ou à l'extrême droite. Donc c'est pas possible d'être à ce niveau de violation de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs, et d'avoir une Europe qui reste silencieuse sur le dossier catalan.
Philippe Manière.
D'abord, je voudrais rassurer Gérard Courtois, ou l'inquiéter d'ailleurs, je ne sais pas, mais l'Europe restera libérale même quand les Britanniques seront partis, s'ils partent.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça l'ampute l'Europe ses acteurs essentiels, c'est tout.
Oui, mais quand vous disiez, par exemple, ils ont contribué puissamment à ceci, à cela, etc., comme vous savez, les Britanniques sont loin d'être isolés sur cette posture. Bien tous sûr, les Scandinaves, ou presque, les Néerlandais, mais ils seront, ce courant de pensée restera dominant en Europe. Et ça, c'est difficile à admettre pour les Français.
Non, pas du tout.
Vous le savez bien, mais beaucoup de Français pensent que, bon débarras, les libéraux s'en vont, enfin, à pouvoir faire une construction admirable.
Non, c'était pas le sens de mon...
J'ai bien compris. Non, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas contre. Mais il y a tous les nouveaux pays de l'Est, ou presque, qui sont dans cette vision du monde. Et puis surtout, les traités dès le début, qui n'ont pas été écrits avec les Anglais, par définition, puisqu'ils n'étaient pas là, sont foncièrement des traités d'ouverture, d'abolition des frontières, etc. Donc, de ce point de vue-là, je rebondissais pour rire sur votre intervention, Gérard, mais parce que beaucoup de gens se posent la question, ça ne va pas changer le déterminisme principal
principaux de l'Union européenne quand le Royaume-Uni sera parti. Parce que c'est ça. L'Union européenne, c'est ça.
La nature fondamentale du projet européen ne va pas changer avec le départ des Britanniques.
Si on n'aime pas ça, on peut regretter que ce soit ça, mais on ne peut pas nier que c'est ça. L'Union européenne, c'est ça. Bon. Alors après, sur les conditions de sortie, personne ne peut contester le fait que c'est douloureux, que c'est franchement regrettable, qu'on n'en finisse pas, effectivement, que toutes ces énergies soient mobilisées. C'est pas complètement étonnant non plus, hein. Les Britanniques sont pas les plus mauvais dans la négociation. Moi, depuis le début, je pronostique que ça durera longtemps, que ça finira à 23h59, le dernier jour du dernier report, et qu'en plus, les Britanniques se seront mis dans la situation de nous faire presque regretter le Brexit nous-mêmes, parce que nous aussi, nous avons à y perdre. Enfin, à peu près la même chose qu'eux, du point de vue de la facilité des échanges. Donc oui, c'est un bras de fer. Les bras de fer, c'est douloureux, surtout à la fin. Et c'est là-dedans qu'on est. Maintenant, est-ce qu'à la fin, c'est l'Europe qui gagne? Moi, j'ai un doute, parce qu'une des raisons pour lesquelles les Britanniques veulent sortir, très consciemment, chez certains, plus inconsciemment dans la majorité des esprits, me semble-t-il, c'est que ils ont le sentiment qu'il n'y a plus rien à gagner avec l'Europe. Vous savez, les Britanniques, c'est simple, ils ont toujours dit, vous connaissez la formule, le Royaume-Uni n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis, il n'a que des intérêts. L'intérêt du Royaume-Uni aujourd'hui n'est pas forcément de rester dans l'Union. Oui, on voit bien qu'à court terme, c'est plus facile pour passer les frontières, pour échanger des marchandises. On voit bien qu'il y a un peu d'inflation, mais comme tout le monde la cherche en Europe, qu'il y en ait un petit peu plus, ça ne va pas les peiner. Oui, il y a de la baisse du pouvoir d'achat pour les voyageurs, mais enfin, c'est quand même du second ordre par rapport à une vision du pays qui est que on ne veut pas avoir les mains liées par des engagements, par des contraintes, etc. Et que, en fait, on a un avenir possible qui est au moins aussi bon en dehors de l'Europe, surtout que, et c'est là où je voulais en venir, du point de vue de beaucoup de Britanniques, en particulier dans les élites parlementaires, l'Europe est enlisée et c'est une affaire qui est en train de partir en quenouille, ça finira mal. Donc, dans le fond, il y a pas mal de Britanniques, parmi ceux qui sont Brexiteurs, qui se disent, il vaut mieux sortir les premiers, il vaut mieux être leader d'opinion, il vaut mieux laisser ce navire couler sans nous. Alors, encore une fois, c'est une vision dont je ne suis pas sûr qu'elle soit la bonne, mais ils ne sont pas dans l'idée qu'ils vont y perdre quelque chose parce que beaucoup pensent que l'Europe est en train de couler. Dernier point, moi j'ai le souvenir très précis qu'à plusieurs étapes de l'histoire récente, on a vu les Britanniques faire des choix qui paraissaient bouffons ou singuliers vu d'Europe continentale, dont on pronostiquait qu'ils allaient les conduire à la déroute et qu'ils ne leur ont pas valu véritablement beaucoup de déboires. Dernier en date, la création de l'euro. On disait, faut vraiment être complètement nul pour pas rentrer dans l'euro. Ha ha ha, la City est morte, etc. Devinez quoi, 3 ans après la création de l'euro, la place de traitement de l'euro sur les marchés d'échange la plus importante au monde et en Europe, à force, ce qui est encore plus douloureux pour les Européens, c'est Londres. Donc, parce que je ne sais pas si c'est l'Europe qui gagne. Ce que je sais, c'est que moi, je vois que ce ne sont jamais les Britanniques qui perdent, historiquement.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Mathieu Laine? Et on va quand même rappeler que par ailleurs, aujourd'hui, depuis cette affaire du Brexit, plus aucun État membre ne prétend vouloir quitter l'Union Européenne. Et même ces partis nationalistes, on pourrait citer en France, bien sûr, le Front National devenu Rassemblement National, même ce parti-là ne dit plus vouloir sortir de l'Union Européenne.
Je ne créerai pas victoire trop vite. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a effectivement un impact à court terme d'une sortie difficile. Si demain, ils arrivent à sortir bien, et en rebond de ce que disait Philippe, à être pragmatique comme les Anglais savent l'être.
Il faut dire que le fameux modèle du Singapour sur Tamise pourrait faire des émules.
Alors, le Singapour sur Tamise, ça marcherait si c'était que Londres, pour être sincère. Avec un grand pays, ça va être un peu plus compliqué. Cela dit, c'est vrai que quand vous regardez la campagne qu'a menée, par exemple, Boris Johnson pour prendre la tête de son parti et devenir Premier ministre, intégrait le fait qu'il promettait, pardon de ces caricatures, mais moi on va vite, de baisser la fiscalité sur les plus fortunés. Pour le coup, c'est pas très populaire, y compris là-bas en ce moment. Hein. Mais il a déjà canté l'idée. C'est certain que si demain ils sortent, et qu'ils sortent de manière assez pragmatiquement efficace, et qu'en 2-3 ans, ils retissent des relations avec les différents partenaires à travers le monde, et qu'ils arrivent à obtenir, y compris par rapport à l'Europe, de meilleures conditions, et qu'en même temps, ils se libèrent totalement dans leur stratégie. Tout dépendra en réalité du Premier ministre de ce pays, mais un Premier ministre pragmatique à la tête d'une Europe libre et bien placée, qui a quand même l'avantage de la langue, pardon, mais moi, même pendant tous ces moments d'insécurité, j'ai vu des gens du monde entier arriver à Londres, encore. J'ai vu des Français partir, j'ai vu des Allemands partir, mais j'ai vu des Indiens, j'ai vu des Américains, j'ai vu des gens de partout arriver encore à Londres, alors même qu'on est dans un climat d'incertitude, et je pense qu'on reverra des Européens revenir, d'ailleurs je commence à en revoir. Et il ne faut jamais, en tout cas, se satisfaire du départ d'un ami. Et puis pour l'Europe, vous savez, ce pays porte quand même 3 des plus grandes universités au monde. Enfin, il ne faut pas se centrer que sur la dimension financière.
Il vous arrive de vous sentir vaguement, je ne sais pas, pris dans des injonctions contradictoires ou dans une situation un peu schizophrénique entre votre identité d'Européen, surtout que l'on connaît. Vous avez écrit dessus et le fait que vous avez ce cri d'amour aujourd'hui pour la vie londonienne, voire pour le modèle britannique.
Oui, mais en fait, on peut être à la fois amoureux de la France et amoureux d'autres pays, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange humain entre les différentes personnes, et surtout à terme, comment les bons systèmes institutionnels vont donner la possibilité aux uns et aux autres de croître. Et je crois que pour le coup, ce sont plutôt les idées de liberté qui permettront cela.
Manuel Cervera-Brinsal.
Oui, juste pour rebondir sur la question du Singapour sur Tamise, d'un Singapour aux portes de l'Europe. Moi, je note, parce que quand on parle de ça, on oublie toujours qu'au sein même de l'Union européenne, on a quand même des États qui s'apparentent fortement à des paradis fiscaux. Hein, Malte, les Pays-Bas, le Luxembourg. Le Luxembourg a été dirigé pendant 8 ans.
Mais Singapour, c'est pas principalement un paradis fiscal, le succès de Singapour. Quand on dit Singapour, oui, c'est des tas de dimensions autrement que
le. Bien sûr, mais il y a quand même celle-là qui est essentielle, puisque rien que pour la France, l'évasion fiscale ou l'optimisation, ça correspond à plus de 80 milliards par an, donc ça permet de renflouer un certain nombre de caisses sociales. Et donc voilà, enfin, je veux dire, on a été en Europe, on a eu pendant 5 ans un président de la Commission qui était auparavant président du Luxembourg, donc il y a ce point-là. Et juste un autre point, c'est que on parle beaucoup, on dit si le Brexit effectivement est confirmé, il va y avoir du coup, la Grande-Bretagne va retrouver son autonomie sur sa réglementation et on dit elle va pouvoir revoir tout ça à la baisse concernant la protection de l'environnement, protection des droits des consommateurs, même des travailleurs, etc. Mais ce qu'on dit pas, c'est que elle pourrait aussi éventuellement les revoir à la hausse par rapport aux standards européens. Et je dis ça parce que demain,
la liberté, c'est précisément.
Voilà. C'est un point qu'on oublie un petit peu dans le débat, et c'est que demain, dans une Grande-Bretagne qu'aurait quitté l'Europe, vous avez quand même le parti de gauche et d'une vraie gauche, le plus puissant d'Europe aujourd'hui en Grande-Bretagne, qui est dirigé par Jeremy Corbyn, qui est aux portes du pouvoir et qui pourrait là aussi.
Dit des choses
rapides, assez inquiétantes. Rapide conclusion, Gérard Courtois.
Je reviens d'un mot sur ce que disait Philippe Manière, la perspective de l'Europe qui coule. On l'a dit 20 fois depuis 50 ans. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est vraiment devant une grande incertitude des pouvoirs européens. Cette espèce de ménage à trois entre le Parlement, la Commission et les États. Le Parlement, plus fragmenté que jamais, et donc plus imprévisible. La Commission, dont on voit bien qu'elle a du mal à se constituer, Madame van der Leyden a été mal élue au mois de juillet, 3 commissaires ont été retoqués, ça retarde d'autant la mise en œuvre du programme de Madame van der Leyden, par exemple son Green Deal annoncé pendant les 100 jours. Bon, pour l'instant, on est en suspens. Et enfin, les États, je vais dire des évidences, mais une Allemagne en fin de course de Madame Merkel.
Et en ralentissement économique.
Et en ralentissement maintenant. Économique. Et pour aller à l'essentiel, un Emmanuel Macron qui se voulait le nouveau leader ou la force motrice d'une relance de l'Europe et qui, à mon avis, par beaucoup de maladresse, se prend des camouflets quand même assez cinglants et agace énormément ses partenaires.
Merci infiniment à vous quatre, Gérard Courtois, Manuel Cervera-Marza, Philippe Manière et Mathieu Laine. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jeanrenaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny. À suivre, Marc Weisman dans Signe des Temps s'intéresse au film The Joker. Et Caroline Brouet dans Les Bonnes Choses nous propose un plat de lentilles, l'aliment du futur, le caviar du pauvre. Mais si, ne faites pas la grimace, Philippe Manière.
Non, j'adore les lentilles.
Alors c'est formidable. Très bonne semaine à tous. Bon appétit. À l'écoute de France Culture.